VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Salut à toutes et à tous, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 3 janvier 2023. Il est 19h30 temps universel pour commencer le sommaire. Au Burkina Faso, des supplétifs de l'armée sont accusés d'avoir tué 28 personnes la veille du nouvel an. En Tanzanie, la présidente lève l'interdiction des rassemblements politiques qui frappaient l'opposition depuis 2016. Au Brésil, la dépouille de Pelé est conduite à sa dernière demeure aujourd'hui. Ici aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants ne sont pas parvenus à élire leur président au premier tour, une première en 100 ans. À suivre aussi l'actualité économique et les sports, mais pour commencer, le journal. Au Burkina Faso, des supplétifs de l'armée ont été accusés d'avoir tué une vingtaine de personnes dans le nord-ouest la veille du nouvel an. Un massacre qui fait craindre un cycle de représailles entre communautés. Rosine Munezero.
Le gouvernement a annoncé lundi soir avoir été informé d'un drame survenu à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans la nuit du 30 au 31 décembre, précisant que les premières informations font état de 28 personnes tuées. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a dénoncé des exactions commises par des volontaires pour la défense de la patrie VDP, supplétifs de l'armée. Le gouvernement a indiqué qu'une enquête est ouverte pour élucider les circonstances et situer toutes les responsabilités. Ce drame se produit à un moment où le Burkina Faso a engagé une opération de mobilisation de l'ensemble du peuple pour une unité d'action dans la lutte contre le terrorisme, a noté le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo.
En RDC, deux enfants ont été tués dans l'explosion d'une grenade avec laquelle ils jouaient. L'explosion s'est produite lundi après-midi alors que des enfants faisaient la chasse aux oiseaux dans un champ. Ils ont ramassé l'engin qu'ils ont confondu avec un jouet, ignorant qu'il s'agissait d'une grenade et qui a du coup explosé, a déclaré Gérard Matibou, chef de groupement de Kabunambo dans la province du Sud Kivu. Une petite fille de 3 ans est décédée sur le champ et un garçon de 11 ans est mort des suites de ses blessures aujourd'hui, a-t-il indiqué. Ajoutant que 6 autres personnes ont été blessées. Ce mardi, une équipe d'experts militaires congolais s'est rendue sur le lieu du drame afin de déterminer la nature de l'engin qui a explosé, a déclaré le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'armée dans cette région. En Tunisie, la principale coalition d'opposition au président Kais Saied a accusé ce mardi le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour la faire taire en lançant des enquêtes contre plusieurs de ses membres. Lors d'une conférence de presse à Tunis, le chef du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi, a affirmé avoir été convoqué par la justice avec 3 autres membres de son bloc à la suite d'une plainte déposée par une autre opposante à Bir Moussi. Par ailleurs, l'avocat Ayachi Hamami, qui défend des juges révoqués par le président Saied, a annoncé avoir été convoqué lui aussi par la justice dans le cadre d'une enquête pour diffusion de fausses rumeurs dans le but de porter atteinte à la sûreté publique. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé ce mardi la levée de l'interdiction des meetings politiques qui frappaient l'opposition depuis 2016, un geste considéré comme un nouveau signe d'ouverture du pouvoir. Abdourahmane Dia.
Lors d'une réunion avec les chefs des partis politiques au palais présidentiel dans la capitale économique Dar es Salaam, la chef de l'État, au pouvoir depuis avril 2021, a annoncé que l'interdiction des rassemblements politiques est désormais levée. « Vous êtes tous libres de critiquer le gouvernement », a-t-elle assuré aux dirigeants des formations politiques. D'autres réformes juridiques sont à venir pour garantir que les droits de tous les partis sont respectés, a-t-elle également promis. En 2016, le président Magufuli avait interdit les rassemblements publics des partis politiques. Dans les faits, cette interdiction ne frappait que l'opposition, car le parti au pouvoir pouvait tenir des meetings. Nommée pour succéder à Magufuli, dont elle était la vice-présidente, Samia Suluhu Hassan a affiché sa rupture, tendant la main à l'opposition, autorisant la réouverture de médias interdits et se disant prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales.
La justice espagnole a ouvert une enquête pour l'enlèvement et la torture de 2 de ses ressortissants, les principaux suspects étant 3 proches du président de la Guinée équatoriale, dont l'un de ses fils a indiqué ce mardi le quotidien El País. Une source judiciaire a confirmé l'information du journal madrilène sans fournir des détails supplémentaires. Selon cet article, les responsables équato-guinéens visés sont Carmelo Ovono Obiang, fils du président Teodoro Obiang et chef du service de renseignement extérieur, Nicolas Nicolas Obama-Nchama, responsable de la sécurité intérieure, et le directeur général de la sécurité présidentielle, Isaac Nguema Edo. Les trois hommes sont soupçonnés d'avoir kidnappé en 2020 au Soudan du Sud Feliciano Efamange, 44 ans, et Julio Obama, 51 ans, deux opposants au régime de nationalité espagnole, et de les avoir amenés de force en Guinée équatoriale et de les avoir torturés de manière répétée. Sur la base d'aveux qui leur auraient été extorqués, les opposants ont été condamnés à de lourdes peines de prison, 60 et 90 ans, pour participation à une tentative de coup d'État, ajoute le quotidien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants ne sont pas parvenus à élire leur président au premier tour après l'échec du républicain Kevin McCarthy à une première en 100 ans. L'élu de Californie n'a pas su calmer la fronde émanant d'un groupe de Trumpistes, une illustration de dissension au sein du parti d'opposition à Joe Biden qui s'est emparé de la majorité à la Chambre basse aux élections de novembre. Nathalie Barge.
Le représentant de Californie, Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre lors de la précédente législature, est le principal candidat, mais il a du mal à obtenir le soutien d'un nombre suffisant de ses collègues. Le parti ne dispose que de 222 sièges et il faut 218 voix pour qu'il soit élu. Un petit groupe d'élus proches de Donald Trump a fait savoir qu'il poserait ses conditions avant de le soutenir. Mais McCarthy n'a pas vraiment de concurrence. Crédible. La présidente sortante de la Chambre, Nancy Pelosi, n'aura pas de rôle de leadership auprès des démocrates pour la première fois en 22 ans. Le démocrate Chuck Schumer devrait être reconduit à la tête du Sénat. 48 républicains et 38 démocrates font leur entrée dans le nouveau Congrès. 24 femmes sur 104 nouveaux élus, soit 23%, rejoignent le Congrès, dont 16 démocrates et 8 républicaines, très loin du record atteint en 2018. On observe toutefois un léger rajeunissement au sein de la nouvelle législature. L'âge moyen des nouveaux représentants est de 46 ans et de 50 ans pour les sénateurs. 18 nouveaux élus ont moins de 40 ans. Avec les républicains majoritaires à la Chambre, les démocrates ne pourront pas faire passer de nouveaux grands projets, mais certains de leurs élus ont voté avec les démocrates, notamment lors du vote du budget tout récemment.
Ajoutons, Nathalie, que le deuxième tour pour l'élection du président de la Chambre des représentants se déroule en ce moment même au Capitole. Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, s'est recueilli à Santos ce matin devant le cercueil de Pelé, cercueil exposé dans le stade où il a réalisé ses premiers exploits. Des dizaines de milliers de personnes ont afflué depuis la veille dans cette ville, John Lyndon.
Arrivé près du stade en hélicoptère, Lula a aussitôt présenté ses condoléances à la veuve de Pelé en arrivant sous le grand auvent où est exposé le cercueil. Le chef de l'État a assisté ensuite à une brève cérémonie religieuse devant la dépouille de Pelé avant le départ d'un cortège funéraire dans les rues de Santos, grand port de l'État de São Paulo, puis l'enterrement. Le défilé de fans s'est poursuivi de façon ininterrompue toute la journée de lundi, puis toute la nuit. D'après un média brésilien, quelques 150 000 personnes sont venues rendre un dernier hommage au triple champion du monde. Lundi, des milliers de fans et des dignitaires du football, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, se sont recueillis devant le cercueil de Pelé installé au centre du stade du FC Santos, le club où il a joué de 1956 à 1974. Pelé est éternel, c'est une icône mondiale du football, a déclaré M. Infantino lundi, précisant que l'instance dirigeante du football demanderait à tous les pays membres de baptiser un stade au nom de Pelé.
Les États-Unis et la Corée du Sud préparent une réponse coordonnée et concrète à une série de scénarios, y compris une utilisation de l'arme nucléaire par la Corée du Nord, a fait savoir ce mardi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il a toutefois précisé que ces préparatifs n'incluraient pas des exercices nucléaires conjoints, puisque la Corée du Sud n'est pas dotée de l'arme atomique. Ces mises au point en provenance de Washington et Séoul répondent à de nouvelles déclarations du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a appelé dimanche à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Des milliers de membres de la communauté kurde de France et d'autres pays européens se sont rassemblés ce mardi en région parisienne pour les funérailles des trois Kurdes tués avant Noël dans une fusillade à caractère raciste en plein cœur de Paris. De nombreux Kurdes refusent de croire à la version d'un tireur isolé aux motivations racistes et dénoncent un acte terroriste mettant en cause la Turquie. Une marche blanche se tiendra par ailleurs mercredi rue d'Enghien ou sur les lieux du drame. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Bagassi Koura.
Les autorités espagnoles disent avoir démantelé une organisation qui envoyait depuis les îles Canaries plus de 5000 tonnes de déchets électroniques dangereux à plusieurs pays africains, dont la Mauritanie, le Nigeria, le Ghana et le Sénégal. Selon les douanes et la garde civile espagnole, durant les deux dernières années, ces déchets envoyés en Afrique par bateau ont rapporté à cette organisation plus d'1,5 million d'euros. Les autorités ont arrêté 43 personnes. En Tunisie, le gouvernement a présenté un plan de développement pour 2023-2025 qui mise sur les investissements du secteur privé, une reprise de la production des phosphates et une agriculture plus verte. Ce programme prévoit par exemple une baisse plutôt lente du taux de chômage à 14% en 2025 contre un peu plus de 15% en 2022. Une bonne partie des investissements vont être canalisés vers le secteur industriel, soutient la ministre de l'Industrie, Neila Gondji. Ici aux États-Unis, Tesla annonce avoir livré 1 310 000 véhicules électriques en 2022. Cela représente un record et un bond de 40% sur un an, mais reste en dessous de ses propres prévisions et des attentes de Wall Street. Pour doper les ventes, Tesla a offert des promotions inhabituelles aux clients acceptant de prendre possession d'une nouvelle voiture avant fin décembre. L'entreprise d'Elon Musk s'est fixée comme but de faire grimper à long terme ses livraisons de 50% par an en moyenne.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Ultime et dernier hommage rendu au roi du football ce mardi.
Oui, plus de 230 000 personnes se sont recueillies devant le cercueil de Pelé en 24 heures à l'issue de la veillée funèbre. C'est ce qu'affirme le club de Santos où le footballeur a bâti sa légende dans le stade de 16 000 places du Santos FC, club dans lequel Pelé a joué pendant 18 ans. Trois banderoles géantes placées dans les tribunes montrent le roi du ballon rond de dos avec son célèbre maillot floqué du numéro 10 et deux autres avec comme inscription « Vive le roi » et « Pelé 82 ans ». Plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, et d'autres dirigeants du football, ainsi que des milliers de fans de Pelé.
Cela fait 2h30 que je suis ici, mais cela vaut la peine de rendre hommage à notre roi, car après lui, il n'y a personne d'autre. C'est le meilleur, le plus grand du monde.
Je suis un fan de Palmeiras, mais je suis venu pour voir le roi, pour dire au revoir à l'éternel. Mais Pelé vivra pour toujours dans le cœur de chacun, peu importe le club ou la passion. Pelé est éternel pour tous.
Il a toujours su être Pelé, le meilleur et le plus humble, a affirmé le président brésilien qu'on écoute.
C'est pourquoi je pense que le monde doit beaucoup à Pelé, en particulier la dignité d'un homme qui est né pauvre, noir, dans un pays où les préjugés sont très présents, et Pelé ne s'est jamais soucié de cela. Il a toujours su être Pelé, le meilleur et le plus humble.
Le président Lula da Silva. Le cercueil a été emporté en dehors du stade à bord d'une voiturette dont le chauffeur pleurait à chaudes larmes. Il a ensuite été hissé sur le haut d'un camion de pompiers, puis recouvert de deux drapeaux, celui du Brésil et celui du FC Santos. Le cortège est passé devant la maison de la mère de Pelé, Celeste Arentes, âgée de 100 ans. Mais atteinte de troubles cognitifs, elle n'a pas conscience de la mort de son fils. Le cortège a pour destination finale la dernière demeure du roi du football, un mausolée au sein du plus grand cimetière vertical au monde, un immeuble de 14 étages avec une vue sur le stade du Santos FC, club où le triple champion du monde a brillé de 1956 à 1974. Nous reviendrons sur ses obsèques et l'héritage footballistique de Pelé dans la partie magazine de ce journal.
Voilà, c'était donc merci Yacouba pour ces nouvelles sportives.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamed Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Au Burkina Faso, des supplétifs de l'armée sont accusés d'avoir tué 28 personnes à Nouna, dans le nord-ouest, la veille du nouvel an. Le gouvernement affirme qu'une enquête est ouverte et appelle au calme. Pour sa part, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénonce des exactions commises par des volontaires pour la défense de la patrie contre la communauté Peul de Nouna. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou le président de ce collectif, le docteur Daouda Diallo.
Le 30 décembre 2022, entre 9h et 11h, des civils armés, communément appelés volontaires pour la défense de la patrie, ont encerclé à Nouna deux grands secteurs, le secteur 4 et 6. Ils ont commencé à enlever uniquement les hommes qui appartiennent à la communauté Peul et à les exécuter froidement aussi et au but de tous.
Qu'est-ce qu'on a reproché à ces personnes qui ont été tuées?
Dans la nuit du 29 décembre, au 30 décembre, vers 2h du matin, le quartier général des Dozo et VDP a subi une attaque terroriste. À la suite de cette attaque, il y a eu des échanges. Après, les terroristes ont replié. C'est en guise de représailles ou de vengeance que les VDP ont décidé de punir toute la communauté Peul, estimant que certains terroristes appartiendraient à cette communauté, qui est également une communauté victime.
Le gouvernement dit avoir ouvert une enquête. On a vu ce communiqué du procureur du Faso qui ne pointe pas du doigt les volontaires pour la défense de la patrie. Vous êtes sûr que c'est des VDP?
Oui, nous, on n'a pas de doute en ce sens que les victimes ont identifié clairement leur bourreau. Et deuxièmement, le chef d'Ozo, Karambiri, il a reconnu les faits, que ce sont ces éléments qui sont impliqués dans le massacre. Quand il a été approché par les leaders communautaires et également pour discuter des questions de l'enterrement et du sort des rescapés.
Le gouvernement a lancé ce vaste programme de recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative du gouvernement?
La volonté de bien faire en impliquant les populations à assurer leur propre sécurité au niveau local, dans le principe, ce n'est pas mauvais. Mais la mesure doit être bien encadré pour que certains bandits ou des gens de mauvaise foi ne profitent pas de cette opportunité qu'offre le gouvernement pour se régler les comptes ou pour s'adonner à du banditisme ou à des pillages. Le gouvernement burkinabé demande l'union, la cohésion pour faire face à l'ennemi qui endeuille toutes les populations sans discrimination ethnique, parce que la dernière attaque de Seitanga, qui a fait plus de 100 morts, a tué plus de 90% des Peuls qui étaient à Seitenga. Si on est d'accord que le terrorisme n'a pas d'ennemis, on peut réussir. Mais si on laisse les civils armés qui font ce qu'ils veulent, ils vont pervertir la mesure et détruire le tissu social.
Est-ce que vous avez foi que finalement, ces exactions, comme vous le dites, commises souvent à l'égard de la population Peul, vont s'arrêter?
Je suis beaucoup pessimiste, malgré l'espoir qu'on avait nourri avec l'arrivée du MPSR2, mais les signaux actuellement qui sont enclenchés dans le Sahel, dans le nord, dans l'ouest du Burkina, où des civils armés se baladent publiquement aussi au vu de toutes les autorités au niveau local et qui font des enlèvements sur un fond de délit de faciès, c'est extrêmement grave. Et les personnes sont exécutées froidement en pleine ville, jetées à la merci des chiens et des charognards. Nous demandons à ce que cette logique soit recadrée très vite pour sauver notre patrie.
C'était Daouda Diallo, président du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Cameroun, les séparatistes des régions anglophones ont décrété un couvre-feu de 24 heures, empêchant les gens de circuler dans les rues et les entreprises de fonctionner. Ce couvre-feu est une réponse au discours du Nouvel An du président Paul Biya, dans lequel il a déclaré que les rebelles ont été écrasés par les troupes gouvernementales. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
L'armée camerounaise dit avoir déployé lundi de nombreux soldats dans les arrondissements d'Oku, de Kumbo et de Kakiri dans la région anglophone du Nord-Ouest. Selon l'armée, les gangs armés ont au cours du week-end fermé les marchés, chassé les gens et les véhicules des rues et enlevé un grand nombre de civils qui ne se conformaient pas à leurs ordres. Lukong Genesis, chauffeur de taxi-moto de 54 ans, affirme que les hommes armés ont saisi sa moto. Il dit que les séparatistes qui se font appeler Ambazoniens ou Amba ont pointé leurs armes sur lui et lui ont demandé de rentrer chez lui.
La situation à Kumbo depuis deux jours est très très précaire. Il y a eu de sérieux échanges de tirs entre les séparatistes et les forces de l'ordre. Ce lundi, c'était comme une ville fantôme et les rues étaient désertes. Aucun mouvement de véhicules ou de personnes, tout le monde est resté chez soi.
Le Kong a ajouté que les combats entre troupes gouvernementales et les rebelles se sont intensifiés après le discours du président Paul Biya à l'occasion du Nouvel An. Le chef de l'État camerounais a déclaré que de nombreux groupes rebelles ont été tués et que la menace séparatiste a été considérablement réduite. Il a félicité l'armée camerounaise d'avoir protégé les civils et les biens pendant les 6 ans de conflit et a assuré que la paix ouvre la voie à la reconstruction de la région. Les séparatistes disent, pour leur part, lutter pour un État anglophone qu'ils appellent Ambazonie. Capo Daniel, porte-parole des rebelles, a rejeté les allégations selon lesquelles leurs forces ont été considérablement réduites.
Que Paul Biya dise que la paix est revenue, c'est risible. Les zones que nous contrôlons ont largement augmenté. 19 militaires camerounais ont été pris pour cible à Bui et certains d'entre eux ont été transportés par avion pour être soignés. Il y a eu quelques incidents criminels par les militaires camerounais à Bui et à Oku. L'Ambazonie n'abandonnera pas son combat jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif. L'indépendance.
L'armée camerounaise admet que ses troupes ont affronté les rebelles dans plusieurs villes et villages de l'Ouest, mais affirme que ses forces n'ont pas subi de pertes. Elle assure avoir tué au moins 11 séparatistes à Kumbo et Oku, une affirmation que la VOA n'a pas pu confirmer de manière indépendante. Bernard Okalia-Bilai est gouverneur de la région anglophone du Sud-Ouest.
Les agents perturbateurs viennent de la communauté. La communauté en elle-même, avec l'appui de l'État, doit combattre les fauteurs de troubles. La communauté va leur dire, si vous n'arrêtez pas, nous allons vous dénoncer auprès des autorités. Vous ne pouvez pas continuer à détruire, à tuer les membres de la communauté pour lesquels vous prétendez lutter.
Les séparatistes nient que leurs combattants ont enlevé et harcelé les civils. Dans les messages publiés sur les médias sociaux lundi, les rebelles ont fait savoir que leurs combattants font respecter leur couvre-feu pour contrer l'affirmation des Biya, selon laquelle les combattants sont vaincus. Selon l'ONU, le conflit dans les régions anglophones du Cameroun a fait plus de 3 500 morts et au moins 750 000 déplacés.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Selon un nouveau rapport du Centre africain d'études stratégiques, les inondations qui n'arrivent qu'une fois tous les 100 ans vont devenir plus fréquentes dans les régions côtières à cause de la montée du niveau de la mer. Alors qu'une partie de la côte ouest africaine est appelée à devenir la plus grande mégapole du monde, les chercheurs s'inquiètent de la hausse du niveau des mers. Reportage de Henry Wilkins depuis le Bénin, récit Abdourahmane Dia.
Selon le nouveau rapport du Centre africain d'études stratégiques, un groupe de réflexion financé par le Pentagone, les inondations catastrophiques qui se produisaient auparavant une fois par siècle risquent de se produire tous les 40 ans à cause de l'élévation du niveau des mers due au changement climatique. Selon les experts, les perturbations subies par les villes côtières et portuaires d'Afrique auront aussi un impact dévastateur sur la croissance économique. À la périphérie de Cotonou, la capitale économique du Bénin, les habitations de la ville de Ganvier sont construites sur des pilotis dans la lagune. On la surnomme parfois la Venise de l'Afrique. Agosou Zanmenou, un fonctionnaire de la commune de Soava, où se trouve Ganvier, affirme que les inondations ont empiré au cours des dernières décennies.
Dans la commune de Soava, ici, il y a deux activités principales. Il y a l'agriculture et la pêche. Donc quand l'eau monte, les cultures sont détruites. Quand l'eau monte et les poissons d'espèces d'eau salée disparaissent, Donc, puisqu'ils ne sont pas propices à l'eau salée.
L'effet sur la communauté a été dévastateur. Alexandre Bado, un autre résident de Ganvier, affirme que les inondations ont tué son bétail et que le niveau de l'eau a atteint environ 1,5 mètre, inondant sa maison, pourtant construite sur pilotis. Il dit connaître des parents dont les enfants sont morts noyés dans les inondations. Les communautés situées le long de la côte, autour des estuaires et des lagunes côtières comme Ganvier, seront les premières à subir les effets du changement climatique. Les inondations et l'érosion côtière vont affecter également les ports africains. Les mesures prises sont insuffisantes selon des économistes comme Astrid Rosemary Longano-Haas.
L'une des choses qui me choque, c'est le peu de financement pour soutenir ces villes en général en termes de construction d'infrastructures et de services. Mais surtout en matière de climat, il est extrêmement important non seulement de s'adapter, mais aussi de prendre en compte l'atténuation des effets de l'élévation du niveau de la mer.
Selon les experts, la portion du littoral ouest africain allant d'Abidjan à Lagos est en passe de devenir la plus grande mégalopole du monde et pourrait abriter un demi-milliard de personnes d'ici la fin du siècle. Daniel Hornweg est un spécialiste des villes durables à l'Université Ontario Tech au Canada.
Cela représente probablement 50% ou plus de 50% du PIB total de l'Afrique dans cette bande. Donc, si elle se développe bien, elle pourrait vraiment ancrer le continent. Si elle se développe bien, elle pourrait vraiment servir de point d'ancrage au continent, voire au monde entier, pour ce qui est du développement durable.
Outre Ganvier, Lagos au Nigeria et Accra, la capitale du Ghana, ont connu d'importantes inondations en 2022.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dernier hommage au roi Pelé, décédé le 29 décembre dernier au Brésil. Plus de 230 000 personnes se sont recueillies devant son cercueil en 24 heures à l'issue de la veillée funèbre dans le stade du Santos FC, club dans lequel il a joué pendant 18 ans. Que laisse-t-il comme héritage? Yacouba Ouédraogo a joint à Libreville, au Gabon, le consultant sportif Jules Valentin Goué.
Il est normal que tout le gratin soit là, tellement le monde du football et même de la politique, la société en général doit au roi Pelé et des apports immenses qu'il a amenés dans le football, aussi bien sur le plan technique et tactique sur le terrain, et que pour l'évolution de ce sport et même l'impact social, le football après Pelé, avec Pelé, est devenu une véritable messe populaire où les plus puissants et les plus pauvres se retrouvaient pour ne former qu'un seul dans une frénésie incroyable et finalement oublier leurs soucis un moment et retrouver la réalité après. Donc son aura est impressionnante, c'est normal que ce grand homme parte entouré.
Qu'est-ce que Pelé laisse comme héritage footballistique à tous ses amoureux du ballon rond?
Mais tout simplement, mais un héritage immense. C'est-à-dire qu'avant Pelé, le football se jouait et d'une certaine manière, mais avec lui, tout a changé. D'abord, il y a eu ces apports techniques auxquels j'ai fait allusion, l'utilisation et le maniement du ballon que vous retrouvez chez tous les grands attaquants modernes. Tout cela relève de la période et du jeu de Pelé. Il a traversé les époques, comme le disaient certaines personnalités qui lui rendaient hommage. Le président Macron en France, par exemple, a parlé d'éternité. C'est la réalité. Alors, nous voyons aussi cela au niveau de l'évolution des tactiques, dans la mesure où c'est Pelé qui a enterré le Catenaccio, le fameux Catenaccio qui avait sali l'image du football avec des atteintes à l'intégrité physique des meilleurs attaquants. Alors, la finale de 1970 au Mexique en est un parfait exemple. Pelé qui s'était fait prier pour jouer cette finale parce qu'il en avait marre d'encaisser les coups. Et disons que ce mondial, finalement, il est arrivé et l'entraîneur lui a dit de faire jouer.
C'était Jules Valentin Goué, consultant sportif, et c'est avec lui que nous mettons un terme à cette émission, cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa. Ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, notre site voafrique.com. Restez à l'écoute de nos programmes. Bon début d'année 2023 à toutes et à tous.